Bon, je vous propose de démarrer. Nous sommes peu nombreux. Hein. On va dire qu'il y a trop d'eau dans la ville. Non, par contre, j'insiste, Pascal, pour que donc tu parles devant le micro de manière à ce qu'on puisse enregistrer, dans la mesure où il y a un projet de transcription des conférences pour qu'il y ait une sortie dans l'actualité, je crois, au printemps. Hein, c'est ça, c'est ce qui serait peut-être prévu. Vous avez donné là, oui, non, mais donc ça serait plus sur les conférences qui ont lieu dans la semaine. Donc en deux mots, après je te passe la parole. Pascal Chauchefoin a accepté d'animer cet après-midi avec donc sa propre conférence plus un film à partir de 16h30 sur la thématique générale sur le prix de l'eau et la relation publique-privée, un thème qui est déjà revenu dans. Qui a déjà été abordé dans la semaine, mais pas in extenso. Donc Pascal, pour ceux qui ne connaissent pas, est enseignant à l'Université de Poitiers, à la Faculté des sciences économiques. Il appartient à un labo dont l'acronyme est CRIEF, Centre de recherche en intégration économique et financière. J'ai du mal à m'en rappeler, mais c'est bien. Et donc impliqué dans un projet État-région sur l'eau depuis alors 5-6 ans, non?
Plus longtemps,
Plus longtemps.
oui, c'est le contrat de projet 2007-2013, mais j'étais déjà dans le précédent.
Et qui était déjà sur l'eau.
Qui
En
était
fait,
déjà
c'est un
sur l'eau,
thème.
c'est l'équipe du professeur Bernard Legube qui pilote ça sur Poitiers, donc plusieurs équipes engagées là.
Voilà, et donc pour terminer, je voulais te remercier d'avoir participé au conseil scientifique qui a permis de définir tout le programme de la semaine. Tu es déjà intervenu aussi la semaine dernière à Jonzac, où là tu as animé une soirée. Donc vous voyez qu'il est très très impliqué, et alors que tu as d'autres tâches universitaires qui meublent ton quotidien. Bon, voilà, merci.
Non, non, merci, merci beaucoup de cette introduction. Non, c'est toujours avec plaisir parce que c'est bien sûr obligatoirement la tâche des enseignants-chercheurs de l'université de participer à ce genre de manifestation, d'aller à la rencontre du grand public. Donc, merci beaucoup de votre présence, même si nous sommes peu nombreux, c'est pas grave du tout. J'espère que on aura au moins la qualité des échanges, c'est ça qui compte. Donc, moi, je profite de cette configuration de salle, évidemment très réduite, pour vous inviter à ne pas hésiter à me couper, parce qu'on ne gênera personne, hein, du coup. Hein. Et puis, j'espère qu'on pourra avoir des échanges très interactifs et très nourris à ce propos. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, donc si vous vous intéressez à un sujet en particulier que je n'aurais pas abordé dans ma présentation initiale, bah, n'hésitez évidemment pas à faire vos remarques et poser vos questions. Donc, le sujet que je me propose donc de traiter à l'invitation de l'Espace Manès France, donc c'est la question du prix de l'eau. Et derrière la question du prix de l'eau, il est immanquable d'aborder la question des relations publiques-privées. Alors, pourquoi cette question du prix de l'eau et des relations publiques-privées? Bon, l'eau, évidemment. C'est une question qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, et puis le succès de ce forum de l'eau là sur la semaine organisée par l'Espace Manès France montre bien que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On peut se demander effectivement pourquoi il y a tant de crispation à certains moments autour de l'eau et des usages de l'eau et du prix de l'eau. Bon, évidemment, c'est une ressource naturelle, donc chacun est bien conscient que il y a un aspect environnemental extrêmement important. Mais quand on dit ressource naturelle, on n'a pas dit grand-chose parce que une ressource, après tout, c'est exploitable, hein, comme une ressource pétrolière. Donc on peut se dire que là n'est pas le problème. En revanche, quand on aborde la question des ressources naturelles du point de vue de ses caractéristiques patrimoniales, dans le sens où on a affaire à quelque chose qui se transmet de génération en génération, hein, c'est le sens du terme patrimoine, notamment un des sens du terme patrimoine, eh bien là, on voit l'eau sous un autre aspect. Et si cette ressource naturelle constitue un patrimoine, et si ce patrimoine doit se transmettre bonnes conditions de génération en génération, on voit bien déjà un premier élément de tension entre ceux qui considèrent que ce patrimoine s'appauvrit et ceux qui considèrent qu'au contraire, ce patrimoine reste constant, voire est amélioré si on pense à la qualité de l'eau éventuellement. Puis autour de la notion de patrimoine, on va même plus loin et on voit arriver d'autres éléments de crispation, de conflit, de désaccord, etc. C'est que le patrimoine, ça peut englober autre chose que la ressource strictement, la ressource en eau, strictement, stricto sensus. Autour de patrimoine et eau, on y met la biodiversité, hein, les espèces végétales et animales qui utilisent ou vivent dans l'eau. Et donc, on fait appel à ce moment-là à un écosystème. Et on sent que durant ces dernières années, dans le débat public, dans l'opinion publique et puis aussi dans les politiques publiques, on voit cette évolution tendancielle de l'eau comme une ressource qu'il s'agit de bien gérer. La loi de 1964 qui est la première grande loi sur l'eau en France. Et puis les dernières lois, y compris au niveau, alors cette fois-ci les directives, hein, au niveau européen, qui considèrent que nous avons affaire à un patrimoine et que la notion d'écosystème et puis d'espace plus vaste que le fleuve, le littoral et puis les ressources aquatiques doivent être prises en compte pour réfléchir sur la qualité de l'eau. Donc, et la disponibilité de l'eau. Donc, premier élément de crispation qui montre que c'était sans doute intéressant de proposer ce sujet, c'est que il y a tout un débat autour de ressources et patrimoine. Deuxième élément de crispation, de débat, de controverse, ben, c'est évidemment autour de la disponibilité en eau. Donc, il y a plusieurs usages de l'eau. Et effectivement, ces usages donnent lieu à des conflits dès lors que la qualité attendue n'est pas au rendez-vous ou que la quantité disponible n'est pas suffisante. Donc, évidemment, on sait qu'on a des problèmes de disponibilité en eau régulièrement. Et on sait aussi qu'on n'a pas toujours, selon le lieu où on se trouve ou selon le moment où on regarde cela, la qualité attendue. Donc, c'est toujours la même question. Quand on manque d'une ressource rare et qu'on a plusieurs utilisateurs ou usagers, bah, chaque usager regarde l'usager voisin en disant « qu'est-ce que tu fais avec l'eau ?» évidemment. Et là, évidemment, on a des sources de conflits entre les différents usages. Et là, nos pauvres agriculteurs sont souvent mis sur la sellette en disant bah, « c'est eux qui consomment le plus d'eau, c'est eux qui la polluent, etc. » Et là, il y a des conflits très forts avec cette catégorie. On en parlera si vous voulez. Les choses ne sont pas si simples. Et puis évidemment, j'arrête là la petite liste. S'il y avait aussi une bonne raison de s'interroger sur le prix de l'eau et les relations publiques-privées, ben c'est parce qu'il y a eu régulièrement, dans un passé récent, des scandales politico-financiers, hein, il faut les appeler comme ça, parce que ça a défrayé la chronique. Il y a eu des comportements immoraux, il y a eu des plaintes devant les tribunaux, il y a eu des procès, il y a eu des jugements, et la question de la gestion de l'eau était au cœur de ces affaires. Donc, ça a marqué les esprits, et puis, quand ça marque les esprits, comme ça, historiquement, ben, on ressort ça, que ce soit de manière intuitive ou objective, c'est une question qui réapparaît régulièrement. Puis, évidemment, il y a des débats politiques pendant la présidentielle, il y a des mémorandums qui sont sortis sur ce qu'il convenait de faire sur l'eau. Voilà, donc j'avais pas besoin de vous convaincre qu'il était intéressant de réfléchir un petit peu là-dessus et de prendre quelques minutes sur ces questions, mais bon, c'est important quand même de le rappeler. Alors bon, soyons simples, j'ai conçu mon intervention donc en deux temps. D'abord un certain nombre de constats liés au prix de l'eau, hein, et puis un certain nombre de questions, j'ai appelé ça des grandes questions, on va dire, c'est donc des questions que tout le monde se pose autour du prix de l'eau et de la relation publique-privée. Bon, alors partons sur les constats. C'est pas facile de faire des constats sur le prix de l'eau. Bon, d'abord rappeler qu'il peut y avoir une mésinterprétation, et le film qui va suivre joue là-dessus. Il peut y avoir une mésinterprétation avec cette notion de prix de l'eau. L'eau n'a pas de prix. C'est un patrimoine naturel, bien commun de l'humanité, etc. Elle est disponible théoriquement. Vous baissez, vous la ramassez dans le caniveau. Je veux dire, il n'y a pas de problème là aujourd'hui. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas l'eau qui a un prix. Ce qui a un prix, c'est le service, hein, qui porte sur l'usage de l'eau, hein, et notamment donc la consommation humaine de l'eau. consommation, donc industrielle, agricole, etc. Tous ces gens-là payent l'eau. Mais parce qu'ils ont un service hein, qui leur est rendu. Donc, en fait, on ne devrait pas dire le prix de l'eau, on devrait dire le prix du service d'eau. Mais comme il faut toujours aller vite, on fait le raccourci. Bon, vous le savez, alors qu'est-ce que c'est que ce service d'eau ? Bah, regardons une facture, donc pour le particulier, qu'est-ce que c'est que le service d'eau pour le particulier ? On parlera des industriels et des agriculteurs, si vous le voulez, qui sont soumis à d'autres principes. Mais bon, pour nous, les particuliers qui consommons l'eau, regardons notre facture. Donc, il y a une part abonnement. Alors, l'abonnement, c'est le montant qui est indépendant de la quantité consommée. Et puis, donc, qui prend en compte la mise à disposition du service. Donc, notamment, puisqu'on vous met un service à disposition, il faut qu'on compte combien vous consommez pour qu'on puisse vous facturer. Donc, l'abonnement, ça tient en compte les équipements qui permettent de vous desservir, et notamment le compteur d'eau. Il faut entretenir cet équipement, donc c'est comme l'abonnement au téléphone. Il faut des infrastructures pour vous servir cela, et donc l'abonnement le prend en compte. Alors, première difficulté, l'abonnement n'est pas calculé de la même manière d'un territoire à un autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie fixe de la facture. Cette partie fixe, elle est variable selon ce qu'on prend en compte. Alors, certains disent, un compteur, il n'y a rien qui ressemble plus à un compteur qu'un autre compteur. Donc, le prix du compteur ou le prix de l'abonnement pour le compteur, c'est pareil pour tout le monde. Et d'autres qui disent, ça va dépendre de la capacité qui est en compte, etc. Oui ?
Il y a beaucoup de fuites dans les réseaux, dans son réseau.
Oui, il y a beaucoup de fuites. Donc, on va en parler.
C'est juste pour l'enregistrement. Vous pouvez répéter.
Il y a beaucoup de fuites dans le réseau. Alors, sauf à Paris, il est bien entretenu à Paris.
Oui, en France, on a cette difficulté d'avoir des réseaux parfois vieillissants, effectivement, qui n'économisent pas l'eau. Il y a des pertes en ligne, voilà ce qu'on peut dire. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça agit sur le coût. Parce que le service n'est pas rendu, alors que si vous faites circuler de l'eau potable, il vaut mieux effectivement qu'elle soit payée à son juste prix. Donc si vous avez une ressource naturelle qui est potabilisée et qui est ensuite envoyée dans les tuyaux pour être consommée, s'il y a de la perte entre les deux moments, c'est un manque à gagner pour l'exploitant. Donc ça va influencer, on va le voir tout à l'heure, mais vous avez raison, c'est un problème. Ça va influencer le prix de l'eau. Il y a des réseaux qui sont défaillants et qui sont fatigués. Et ils ont un rendement, comme on dit, plus faible que la moyenne. Par conséquent, ça augmente le prix. Donc ça, ce n'est pas mesuré dans le coût de l'abonnement. Ça sera mesuré dans le coût de fonctionnement du service. Ensuite, évidemment, on a le montant qui est lié à la consommation. Ça dépend de votre consommation. Là, il peut y avoir plusieurs pratiques. En général, donc, c'est complètement lié au volume consommé. On peut avoir un tarif modulaire, comme on le voit arriver en ce moment, avec des innovations du point de vue tarifaire. Donc il y a certaines villes qui disent on ne devrait pas pénaliser la petite grand-mère qui a une consommation extrêmement modeste et qui consomme juste ce qui lui est nécessaire pour vivre. Donc ça, c'est le minimum. Donc c'est le minimum vital. Donc là, l'eau, elle ne doit pas valoir cher pour ces gens-là. Et puis, si on veut encourager les économies d'eau, il faut définir un seuil au-delà duquel on payera plus cher. Il faut que ce soit dissuasif. Alors ça, c'est très citoyen comme démarche. C'est une volonté d'équité entre les gens et puis le fait de dire, on manifeste le fait que c'est un bien vital, donc ce bien vital, il doit être le moins coûteux possible. Et puis on reporte le coût supplémentaire, le coût qui est lié à des développements de réseaux, etc., sur des consommations qui sont plus dispendieuses. C'est délicat à manier parce que, effectivement, là, ça nécessite de définir quel est le seuil à partir duquel on fait payer plus cher. Et puis, évidemment, ça introduit des distorsions entre les consommateurs. Et puis, il n'est pas sûr que ce soit très efficace d'un point de vue économique parce que ça, c'est un aspect embêtant. C'est que pour rentabiliser un service d'eau, c'est comme quand on fabrique des voitures. Plus on en vend, plus le service est rentable. Donc, normalement, on ne joue pas en faveur de l'économie d'eau. Donc, il faut trouver le juste milieu entre préserver la ressource et faire des économies d'eau et en même temps avoir un service qui soit rentable, c'est-à-dire dégager des investissements, employer des gens, faire tourner un service, qu'il soit public ou privé, mais qui fasse rentrer de l'argent. Bon, donc, C'est ça qui est compliqué à gérer. Donc l'importance de ce seuil, évidemment, hein, il faut poser ce seuil au bon endroit, parce que si vous le dissuadez complètement les gens de consommer, ce qui est évidemment pas possible dans la mesure où on a tous des usages incompressibles de l'eau, enfin si vous dissuadez trop brutalement, en tout cas, ça peut poser des problèmes économiques. Ensuite, il y a des redevances et des taxes. Hein, donc j'élimine la TVA. Donc depuis janvier de cette année, la TVA est différenciée entre l'eau potable et l'assainissement. On est passé à 7,5 sur l'assainissement et on est resté à 5,5 sur l'eau potable. Bon, enfin, il y a de la TVA. Et puis, donc, on a des redevances pour des organismes publics. Alors, en fait, on paye une taxe tous, hein, en tant qu'abonnés à l'eau potable. On paye une taxe à des institutions qui s'appellent les agences de l'eau. Hein, il y en a 6 ou 7 en France, je ne sais plus combien. 7, je crois. 6. Ouais, donc 6 en France, qui gèrent donc des dispositifs d'économie d'eau, de préservation de la ressource, de financement d'équipements et d'aménagements, et qui donc, à de grandes échelles hydrographiques, interviennent donc pour améliorer le service sur l'ensemble des points que j'ai indiqués. Et donc, pour qu'elles fonctionnent et qu'elles aident notamment des collectivités à investir dans des nouveaux équipements, soit plus économes en eau, soit qui permettent de mieux traiter l'eau avant les eaux usées, hein, nouvelles stations d'épuration, etc., les agences interviennent comme ça auprès des collectivités pour les aménagements ruraux, etc. Donc, on pourra revenir sur ces agences qui sont mal connues par le grand public, hein, et dont le fonctionnement est souvent mis en cause, notamment par les élus. Justement, à Jarnac, durant la semaine, le maire de Jarnac disait il faut un livre blanc sur les agences de l'eau, parce que nous, les élus, on trouve que ce n'est pas transparent, etc. Donc, si vous voulez, on pourra revenir sur cette question. Bon, toujours est-il qu'on finance un grand nombre d'investissements d'amélioration du service à travers ces agences de l'eau qui sont donc là pour affecter ces moyens, et donc elles sont financées par les consommateurs, les usagers. On a ensuite une partie assainissement sous deux formes. Oui.
Oui. C'est 12,5%.
Oui, c'est ça. Donc, alors c'est entre, c'est 18. Moi, j'avais retenu aux alentours de 18-20%. Mais bon, à quelque chose près. Alors, il y a aussi, dans le cas où l'eau est prélevée dans les eaux de surface, il y a une partie des redevances qui sont versées aux, comment dit-on, aux voies, et, enfin, aux voies navigables de France.
Non, mais ça, c'est pour certaines voies navigables.
C'est pour certaines voies navigables. Dans certaines à Poitiers, nous ne sommes pas concernés. Mais voilà. Alors, et puis en milieu rural, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. En milieu rural, on versait pour l'extension des adductions d'eau, on avait un fonds national de développement.
Mais il me semble que maintenant c'est revenu ça. Il y a un fonds pour l'extension des réseaux pour
le développement des adductions d'eau en milieu rural.
Et puis il me semble que pour les urbains payent aussi, pareil.
Les urbains payent aussi.
Je crois qu'on a. Je n'ai pas révisé ma facture.
Non. Mais moi je l'ai révisé hier soir. Mais j'ai pas vu trace de cela.
Ah bon?
Non, moi j'ai juste agence de l'eau.
Prélèvement.
Ah bah oui, ouais, prélèvement, agence alors.
Un prélèvement, pollution, ça va à l'agence aussi.
Ouais.
Et puis il doit y en avoir un autre, investissement aussi des réseaux, il me semble.
Mais là, donc sur les redevances là, qui pèsent à peu près 18-20%, hein, donc puisque voilà, vous vouliez savoir un peu comment ça s'organisait.
Oui, alors, ça c'est encore vicieux parce que le calcul des agences se fait en fonction des populations, des centres de consommation. À Poitiers, je suis sûr qu'on a les taxes sur dues à l'agence sont différentes du monde rural.
Donc,
oui, moi, c'était en fait un peu dans ce sens-là, étant donné que dans la région, on a des syndicats d'eau d'un côté, puis des régies ou des services municipaux. Est-ce que la composition des factures varie?
Où
on retrouve fondamentalement les mêmes
items. Elle va varier, notamment sur la composante fixe, ce que j'ai appelé l'abonnement.
D'accord.
Où la manière de calculer le montant de l'abonnement est différente.
Et puis pour le secteur privé, ce qui se passe aussi, c'est que En général, ils ont une ligne à eux qui n'apparaît pas dans le secteur public où il y a un remboursement de l'emprunt, je ne sais pas quoi. Ouais. Mais ça, c'est identifié. Je ne sais plus comment ça s'appelle parce que j'ai jamais eu l'occasion.
Ça, c'est relativement nouveau, hein, il me semble. C'est une loi récente des années 90-2000, j'ai plus la date en tête, où on oblige, parce que évidemment, comme il y a eu beaucoup de scandales et des dénonciations de beaucoup de malversations autour de l'eau, il y a des lois successives dans les années 90 en France qui imposent aux délégataires privés une certaine transparence, et notamment vis-à-vis de sa politique d'amortissement. Parce que ça, c'était un conflit éternel entre les collectivités, et donc finalement les représentants de l'intérêt collectif, hein, les usagers, et puis les délégataires quand il s'agit du privé, parce qu'on leur disait, c'est pas transparent sur vos amortissements, vous avez une politique qui joue en défaveur des abonnés. Donc, le fait qu'ils soient obligés d'indiquer ce qu'ils font en termes d'amortissement ou de provisionnement, ça, ça découle de la loi. Alors ensuite, quatrième élément, donc je laisse tomber la TVA, j'en ai parlé en disant redevance et taxe. Il y a la partie assainissement. Alors deux cas de figure. Soit vous êtes raccordé au tout à l'égout, comme on dit, hein, assainissement collectif, voilà. Et donc là, vous payez ce qu'on appelle des frais de collecte et de traitement des eaux usées, voilà. Et si vous n'êtes pas raccordé, depuis peu, finalement, vous payez une contribution à ce qu'on appelle le SPANC, Service Public de l'Assainissement Non Collectif, qui veille à ce que tous les résidents propriétaires évacuent correctement, selon la loi, les eaux usées, c'est-à-dire qu'il y ait un traitement... Donc, si vous avez un épandage, eh bien, tous les 4 ans, quelqu'un est missionné par le service public de l'assainissement non collectif pour venir voir comment vous évacuez vos eaux usées et si c'est conforme à la réglementation. Alors, conforme à la réglementation, on a dit beaucoup de choses sur le SPANC. Bon, c'est quand même un moyen de vérifier que les gens, par exemple, c'est des choses aussi basiques que ça, parce que ce n'est pas un gendarme pour l'instant extrêmement sévère. Ce que l'on essaye de faire dans le cadre du SPANC, c'est par exemple vérifier que les gens n'évacuent pas leurs eaux usées dans les eaux pluviales. Or, c'est répandu. Et ça, il vaut mieux éviter parce qu'évidemment, vous avez une source là de pollution, y compris microbienne, extrêmement importante. Bon, alors certains prennent un peu de liberté par rapport à ça, il vaut mieux leur rappeler la règle. Bon, il faut avoir effectivement un système d'épandage qui fonctionne selon les normes. Alors là, soyons clairs, c'est selon les normes en vigueur au moment où vous l'avez installé. C'est-à-dire qu'il faut que le truc fonctionne. Si on vous installe un épandage cette année, bah, il faut qu'il soit aux normes en vigueur aujourd'hui. Voilà. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont un peu vieillissantes, qui sont cassées, qui fonctionnent mal. Là, il faut leur remettre en état de fonctionnement. Hein. Mais donc, on a souvent dit, oui, la personne âgée qui a 90 ans, on va lui demander d'investir 20 000 euros pour avoir une pompe de relevage et refaire un système d'assainissement aux normes d'aujourd'hui. Non, non. Il faut que son système d'assainissement individuel fonctionne. C'est tout. Hein. Voilà.
En milieu rural, étant donné surtout l'augmentation du prix de l'eau et la rareté, bien souvent, beaucoup de gens utilisent des sources, puits, citernes, et on s'aperçoit que j'ai eu 2-3 fois des interrogations. Est-ce que vous utilisez ? Vous n'avez pas le droit d'utiliser pour tel et tel usage. En fait, est-ce que c'est pas aussi tout simplement pour traquer tous ceux qui veulent échapper à payer les contributions diverses et variées qui sont dues dans le service public. Ouais.
Je vais faire une première réponse et puis Jean-Paul Louis, qui a été un professionnel de l'eau pendant très longtemps, va sans doute compléter. C'est très bien qu'on ait ce genre d'échange, c'est parfait vu la configuration du public. Aujourd'hui, c'est très bien que ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai plutôt le sentiment que l'intérêt, disons, de la puissance publique par rapport à des usages de l'eau qui sont effectivement pas toujours transparents, pas toujours visibles, c'est d'éviter les problèmes sanitaires d'abord et avant tout. Et par exemple, je ne sais pas si vous faisiez allusion à cela, mais en France, l'usage de l'eau pluviale est très strictement réglementé. Et on ne veut pas que l'eau pluviale entre dans les maisons. Et on ne veut pas qu'il y ait des risques de mélange de tuyaux. voilà, pour des raisons sanitaires. Voilà. Alors, après, bon, on peut trouver que ces observations, ces renseignements, ces injonctions éventuelles sont trop pesantes, mais moi, je pense que l'idée initiale, c'est la salubrité publique, quoi, et l'aspect sanitaire. Je ne sais pas, Jean-Paul, si tu veux.
Moi, je dirais que bon, le SMOC, il est né en 96 avec la deuxième loi sur l'eau. Et on a... Bon, ça a mis du temps. Hein. Et en fait, on s'est aperçu que les gens qui avaient des épandages, des installations individuelles, ne s'occupaient absolument pas de leurs installations. Ça fonctionnait comme ça fonctionnait. Oui. En général, l'installation était faite et on n'était pas du tout au courant. On n'était pas du tout... Enfin, les gens n'étaient pas du tout informés comment ça pouvait fonctionner. Et alors moi, c'est des chiffres que j'avais gardés en mémoire quand on a évoqué ces problèmes-là. Il me semblait, enfin, l'agence de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne avait estimé que la pollution liée aux installations individuelles, c'était de l'ordre de 30%, la pollution domestique. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Mmh. Hein. Alors, quand je dis partout, c'est le fossé, c'est le champ qui n'est pas adapté.
C'est la mare.
Alors, on a vu les puits aussi, hein, les chasses d'eau. Enfin, là, c'était encore mieux, c'était directement dans le puits. Et tout ça, bon, il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Bon, alors, est-ce qu'il y a un souci de vouloir réglementer tout? Regardez ce qu'on a fait au niveau de l'automobile. Bon, les gens ont accepté d'avoir des contrôles techniques. Ben, au niveau des stations des systèmes d'épandage individuels, de l'assainissement non collectif, c'est du même ordre. Et je pense, alors, il existe maintenant du matériel sur le marché qui est relativement bien adapté. Bon, l'élément essentiel, c'est le terrain dans lequel vous vous trouvez. Et il faut trouver la solution adaptée. Alors maintenant, on voit des installations qui sont relativement conséquente puisque la solution qui est envisagée, c'est ni plus ni moins que de reconstituer un sol sur lequel vous allez faire filtrer après le passage en fosse toute eau. Vous allez filtrer les effluents dans un sol reconstitué. Et après, ça doit marcher 5-10 ans. Mais là encore, il y a des contrôles périodiques qui sont prévus. Et là, il y a encore des textes qui sont sortis, des arrêtés. Enfin, c'est assez compliqué.
Moi, j'avais une question à te poser aussi. C'est le lien, justement, entre la partie assainissement et la partie consommation. Oui. Puisqu'il y a des cas de figure qui sont un peu tordus, c'est-à-dire des eaux pluviales qui vont finir vers l'assainissement. Donc là, non tarifées, effectivement. Et puis l'inverse, des eaux, alors c'est chez les particuliers qui servent par exemple à l'arrosage d'un potager et qui là vont être taxées alors qu'il n'y a pas d'assainissement direct derrière. Donc là, il n'y a pas d'évolution potentielle sur ces aspects-là. Je ne sais pas, sur le plan réglementaire, est-ce qu'il est encore autorisé aujourd'hui de collecter les eaux pluviales dans des réseaux d'assainissement ? Moi, je crois que sur ma commune, c'est encore toléré. Je ne suis pas sûr que ça soit légal.
Jean-Paul, on n'a pas fait les présentations, mais pourquoi Jean-Paul prend beaucoup la parole ? Parce qu'il a été directeur du service d'eau au Grand Poitiers pendant longtemps.
Voilà. Non, je veux dire qu'au niveau du pluvial, les eaux pluviales qui sont rejetées dans le réseau d'eau usée, c'est ce qu'on appelle un réseau unitaire. Ça, c'est autorisé. Alors, sur Poitiers, vous avez les grands collecteurs qui font toute la ceinture, où là, on est en réseau unitaire. Mais en France, le réseau dit séparatif, avec une canalisation d'OU et une canalisation d'EP à côté, s'est fait largement l'écho de cette technique. Alors que dans d'autres pays, pour X raisons, c'est le contraire. Le réseau unitaire est devenu important. Par exemple, en Allemagne, les Allemands ont énormément développé le réseau unitaire.
Bien, donc ça, c'est la structure de la facture et donc évidemment, ça nous amène à un prix. Alors, donc vous avez compris que c'est déjà pas évident d'avoir une manière unitaire de constituer la facture. Alors, et ensuite, évidemment, on va trouver une très grande diversité de situations. Donc, ça, ce sont les chiffres. Alors, vous pouvez avoir des variations selon les sources de documentation que vous utilisez. Bon, moi, là, j'ai pris l'information donc sur le service public de l'eau. C'est un service d'État hein, qui a fait un recensement assez exhaustif de la situation et qui l'a fait donc assez récemment avec les chiffres les plus récents, hein, 2009. Il faut dissocier eau potable et assainissement, puisque tout le monde n'est pas connecté sur le réseau d'assainissement collectif. Donc, on est à presque 2 euros toute taxe comprise au mètre cube d'eau. On prend toujours comme référence pour calculer le prix moyen de l'eau 120 mètres cubes consommés, hein, qui est une consommation annuelle de référence. Hein. Et donc, si vous faites le calcul, pour 120 mètres cubes, on est aux alentours d'une facture d'eau de 228 euros par an. Ça, c'est pour l'eau du robinet. Et puis, quelque chose d'assez semblable, bon, voilà, aux alentours de 1,70 € pour le coût du mètre cube d'eau assainie. Voilà. Ce qui fait donc que pour les gens qui ont l'assainissement collectif, donc ils payent les deux parties et ils ont une facture. Donc en moyenne en France, hein, les Français payent en moyenne pour une consommation de 120 mètres cubes 3,62 € toutes taxes comprises. Voilà. Alors plusieurs remarques par rapport à ça. Donc je dis ça cache une grande diversité de situations. Bah, déjà une grande diversité de situations en Europe. La France est plutôt dans une situation moyenne. Donc on ne peut pas dire qu'en France on paye notre eau plus cher qu'ailleurs. Là, donc, vous voyez, les chiffres ne sont plus tout à fait les mêmes, mais c'est très, très difficile d'avoir des évaluations harmonisées. Là, c'est un travail fait au niveau de l'Europe, donc ils n'ont peut-être pas pris les mêmes références, mais là, c'est un cabinet privé qui avait travaillé pour l'Union européenne. Donc, bon, au Danemark, ça coûte nettement plus cher, hein, un peu moins du double. Et vous voyez que, bon, en France, avec... disons une moyenne européenne pondérée autour de 3,40 €, bon, nous, on est à peu près là-dedans, étant entendu que nous, en France, vous voyez, ils nous positionnent à 3 €, alors que, bon, j'ai montré tout à l'heure qu'on est un peu plus au-dessus de 3 €. Bon, ce sont des fourchettes, mais en tout cas, ça nous positionne pas mal, donc on peut pas dire que les Français payent l'euro plus cher que la moyenne des Européens. Alors, évidemment, après, il faut regarder Espagne, Italie... c'est vraiment pas cher, évidemment. Est-ce que le service est au même niveau? Évidemment, là, c'est juste une comparaison de prix de facture hein, au mètre cube consommé. Évidemment, on n'a pas une évaluation de la qualité du service qui va derrière. Alors, pour la France, bon, les Français sont toujours râleurs, vous le savez bien. Ils ne sont jamais très contents de leur service public. Bon, en tout cas, il y a des éléments assez tangibles, hein. Là, je fais à nouveau référence donc le document sur lequel je me suis appuyé pour définir le prix moyen de l'eau en France et le document sur lequel je m'appuie pour vous dire ces quelques éléments sur la qualité. Hein, donc, c'est l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. Hein, et donc, si vous trouvez tout ça sur un site qui s'appelle Eau France, hein, EAU et tout attaché France, service public d'information sur l'eau. Quand on interroge les exploitants, hein, publics et privés, puis qu'on leur demande donc de montrer quelle est leur performance, bah, par exemple, ils vous donnent le taux de conformité. Bon, bah, c'est des gens qui font bien leur travail. Hein. Le taux de conformité par rapport aux indicateurs microbiens, bah, le taux de conformité, il est de 98%. Bon, bah, vous pourriez dire, évidemment, si je suis dans les 1% où la conformité n'est pas bonne, je pourrais rouspéter, mais disons, voilà, 98% de conformité sur les critères microbiens et 97% sur les critères physico-chimiques. Les critères de mesure de qualité de l'eau qu'on va distribuer au robinet, il y en a 66 hein, qui sont imposés par la directive européenne et que normalement tous les pays européens doivent vérifier. Donc sur 66 critères, quand on a des taux comme cela, on peut dire que bon, le service fonctionne plutôt bien. Alors après, on peut dire bon, il y a peut-être d'autres éléments à prendre en compte. Le taux de réclamation. Donc on demande aux exploitants de dire combien vous avez eu de réclamations sur 1000 abonnés. Bah, c'est 7 pour 1000 en France, en moyenne. Donc ça, c'est sur l'eau potable. Et puis... sur l'assainissement collectif, on a 4,3 réclamations pour 1000 abonnés. Donc bon, je ne développe pas ces chiffres, mais c'est pour dire que on a un prix moyen avec un service qui est de très bonne qualité. Alors, je disais, on a un prix moyen, mais qui cache de grandes disparités. Alors, j'ai pris les écarts les plus grands. Alors, vous savez, ce n'est pas comme ça qu'en général, on travaille en statistique. Hein. En général, on travaille en déciles. Hein. Quand on a des centaines, on fait 10 déciles. Et puis, pour être resserré sur des choses qui sont en dehors de la normale, on enlève le premier décile, hein, ce qui est le plus bas, puis on enlève le dernier décile. Puis on dit, voilà, là, on a un paquet qui est à peu près homogène, et puis on peut calculer des écarts. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai regardé donc, les chiffres de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. Alors, là où c'est le moins cher, c'est une petite commune des Pyrénées-Orientales pour l'eau potable, 0,53 euros le mètre cube. Donc, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont très forts, ils sont très, très forts, hein, puisque je reviens en arrière, pardon. Moi, j'avais dit le mètre cube d'eau potable, presque 2 euros. Là, ils ont bien de la chance, hein, ils sont très forts. Et puis, le plus cher, c'est en Martinique. Oui, oui. TTC. Et le plus cher, donc le prix le plus élevé, c'est en Martinique, où on est à presque 3 euros le mètre cube d'eau potable, donc non assaini. Donc ça fait un écart de 5,5 à peu près. Bon, si on enlève ces cas extrêmes, on est dans une fourchette de 1 à 3,5, 1 à 4. Quoi. Voilà. Donc, juste pour cette carte, pour vous montrer que la diversité, elle est donc là où on paye le plus cher, on voit bien que la Bretagne, c'est assez foncé. On n'a pas toute l'info sur toute la Bretagne, mais vous voyez, il y a un département qui est en blanc, donc on n'a pas calculé ça. On a quand même des inquiétudes ici, hein, voilà. Et puis, on a des paquets assez homogènes. Hein. Donc, c'est des endroits où on paye l'eau plus cher. Probablement, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ces écarts, hein, mais probablement parce que l'exploitation est plus complexe. Hein. Probablement parce que l'exploitation est plus complexe. Pas sûr.
Ah bon ?
Je suis pas sûr parce que ça commence.
Mais vous avez dit que le moins cher était Pyrénées à 50 centimes.
Oui, oui, vous avez. Oui, oui, mais parce qu'ils doivent commencer l'échelle ici, et puis après, si l'échelle commence ici, ça veut dire que là, cette partie-là, d'accord, avant de passer à la couleur supplémentaire, c'est 1,5. Donc tout ce qui est en plus clair ici, c'est entre 0,1 qui doit pas exister et 1,5. Donc, d'accord, on doit l'avoir, notre cas. Hein, voilà, c'est un problème. L'échelle est mal... j'ai pris ça sur un site existant. Et l'échelle est mal positionnée. Vous avez raison.
Non, mais ça va. C'est vrai, je comprends maintenant.
Ça va,
ce qui est surprenant, c'est effectivement cette masse noire sur Limousin et puis haut de Midi-Pyrénées et Aquitaine.
Oui.
Alors que Limousin, a priori, il pleut quand même pas mal. Et peut-être parce que la densité de population est faible et que ça revient cher à transporter. Ouais. Alors qu'en Bretagne, il y a quand même pas mal de pollution avec 60% des forages qui ont été abandonnés pour surdose en nitrate. Donc ça veut dire soit réduction de la quantité de nitrate avec de l'équipement comme ça vient de se faire à Poitiers. Nitrate ou pesticide à Beljouanne ? C'est pesticide à Beljouanne. Donc oui, c'est un peu surprenant là. Mais c'est peut-être lié à la densité de population.
Alors, je vais, si vous voulez bien, je vais lister les critères. Et puis Jean-Paul, tu pourras compléter si tu veux. Vous avez déjà cité deux critères excellents, effectivement. Et donc tous ne fonctionnent pas de la même manière sur les différentes parties du territoire. Donc on n'a pas de manière univoque une explication pour la différence du prix. Donc vous avez raison, il y a le problème de l'acheminement. Donc ça coûte cher hein, d'acheminer l'eau. Donc quand vos consommateurs sont disséminés, et donc c'est le cas notamment au milieu rural, ça peut être un élément de surcoût. Il y a la complexité du traitement. Donc si on a une eau naturelle, l'eau brute comme on dit, hein, de mauvaise qualité, il faut faire un traitement. Donc c'est le cas que vous citiez pour la Bretagne qui est probablement effectivement la bonne explication. On a également la complexité du patrimoine, c'est-à-dire on peut avoir des choses, des infrastructures qui sont compliquées, des stations d'épuration qui sont lourdes à gérer, on peut avoir un patrimoine vieillissant, on peut avoir un patrimoine qui a des éléments techniques complexes à prendre en compte. Densité des abonnés, donc je l'ai dit, hein, si on a des abonnés regroupés qui sont en forte densité sur un linéaire, c'est plus facile. Hein, on fait des économies d'échelle, c'est plus facile de les servir que s'ils sont dispersés. Il y a à prendre en compte aussi la stratégie de renouvellement du patrimoine. c'est pas parce qu'on a une eau pas chère qu'il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'on peut avoir un propriétaire qui entretient mal. Hein. C'est comme quand vous payez votre loyer pas cher, alors quand vous êtes locataire pour votre logement, ça peut être très bien, mais ça peut être inquiétant aussi, parce que le jour où on va refaire la toiture, ça va coûter très cher, alors qu'elle n'a pas été entretenue. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le monsieur était intervenu en disant « oui, je sais qu'il y a des fuites quelque part ». Bon, il y a le rendement du réseau, effectivement, hein, ça rentre dans le coup. Hein. Évidemment, s'il y a de la fuite, c'est de l'eau qui n'est pas valorisée, hein. Ça c'est clair. Tu me diras si je me trompe, Jean-Paul. Et puis, il y a la durée d'extinction de la dette. Hein, si on s'est endetté pour mettre les équipements aux normes ou pour introduire des innovations, eh bien, il faut rembourser la dette. Et donc, tant que vous ne l'avez pas remboursée, c'est une charge hein, sur le coût de fonctionnement. Donc, tous ces éléments peuvent entrer en compte, parfois certains plus forts que d'autres, parfois tous un peu mélangés. Et puis, il faudra regarder chaque situation. Mais pour la Martinique, ce qui est sûr, c'est qu'on a à la fois un problème de disponibilité et à la fois des réseaux mal entretenus. Hein. Je crois qu'ils ont un taux de fuite record. Hein. Tu es allé travailler là-bas ?
Non. Mais il y a une chose que, à mon avis, vous n'avez pas dit. C'est sur cette place qui aurait été intéressant, c'est d'indiquer l'implantation des majeurs.
Alors, oui, alors non, mais parce je vais
ça,
l'indiquer.
Ça, ça a une importance, je veux dire.
Non, mais parce ça, que, c'est alors. Pour tout à l'heure. Parce que, justement, si on colle les cartes, alors, je dis juste un mot, puisque là, bon. Si on colle les cartes, vous pouvez aller retrouver sur ce site l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, donc Eau France. Ils ont fait une carte de la répartition géographique des différents services et l'exploitation publique de l'eau est très majoritairement sur le côté est de la France et l'exploitation publique de l'eau privée de l'eau, les exploitants privés sont plus présents sur la partie ouest de la France. Il y a vraiment deux Frances qui se regardent. Hein. Et ça ne recoupe pas hein, si on superpose. Donc, mais il n'empêche qu'en moyenne, le service privé de l'eau est plus cher que le service public de l'eau. On y revient tout à l'heure. Mais ça ne se superpose pas, là, ces deux cartes, si c'est ça que
vous vouliez dire. Non, moi, ce n'est pas ça que je mets en cause. Moi, je dirais que pour la Bretagne, bon, je pense que pour la Bretagne, il y a un effet de difficulté de trouver de l'eau, puisqu'en Bretagne, on n'a pas de stock naturel. Ils ont fait des barrages, ça s'amortit. Il y a des usines de traitement des eaux qui sont derrière. Donc là, ça fait forcément des coûts qui sont relativement importants. Pour le Limousin, que je connais un petit peu, je suis un peu étonné, mais je pense que le facteur linéaire des réseaux est en cause.
C'est l'explication
parce que
monsieur,
Limoges, c'est pas une ville qui a la réputation d'être une eau chère. Ils ont des difficultés de traitement parce que s'ils ont une eau de qualité, entre guillemets, parce que c'est de l'eau de surface, ils ont des bactéries ferrugineuses qui les emmerdent et qui emmerdent tous les réseaux. Alors, au niveau des fuites, moi, je ne suis pas tout. Les fuites ne coûtent cher que dans la mesure où on s'attaque à leur recherche. Parce que ça, on le fait indirectement payé par le consommateur. Hein. C'est des travaux qui sont... Quand vous refaites 10 km de réseau et que vous allez gagner, allez, on va dire, 500 m3 par jour, vous voyez le coup. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le niveau des fuites? Oui, donc c'est mutualisé sur le prix de l'eau. Alors, on est bien ici sur le prix de l'eau potable. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu d'assainissement. Les stations d'épuration, sur cette carte-là, n'entrent pas en ligne de compte. Hein.
Absolument pas. Absolument pas. C'est de l'eau potable ici. Bon, il y a la même carte hein, sur l'assainissement, mais je n'ai pas voulu m'attarder sur cet aspect. Donc, le prix de l'eau dans le budget des ménages, puisque ça, c'est aussi des éléments de constat. Là, je n'invente rien. Voilà, 1% des dépenses annuelles par ménage. Donc, des fois, on a l'impression que c'est crucial, c'est essentiel, il ne faut pas que ça bouge, etc. Mais ça représente encore très peu. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille pas pour autant s'en préoccuper, mais il faut relativiser, hein, il faut relativiser. Comparons, donc ce qu'on dépense pour les communications, c'est explosif hein, ces dernières années. Hein. L'INSEE sort régulièrement des études sur l'évolution des postes de dépenses des ménages. Et Bon, aujourd'hui, là, j'avais vu une étude très récente de l'INSEE, communication plus loisirs et culture, on est à 16%. Donc, et ça, c'est des chiffres de 2006. Donc déjà, on a pris 3% en 3 ans. On a pris 3% en 6 ans. Ça, c'est des budgets qui augmentent très vite. Et évidemment, par rapport au budget de l'eau, c'est beaucoup plus faible. Logement, chauffage et éclairage, c'est 25% donc, du budget annuel des ménages. Alors après, quand on se focalise, ce qui est intéressant, c'est de regarder de plus près des dépenses en fluide, des dépenses qui sont des charges régulières sur les logements, quoi. Donc là, j'ai fait une extraction donc, d'une publication de l'INSEE. On se concentre cette fois-ci, donc ce n'est plus les grands postes des budgets des ménages, on se concentre sur distribution d'eau, électricité, gaz, combustible liquide, on va dire en gros le fuel, combustible solide, on va dire en gros le bois, et puis ce qu'on dépense pour la production d'eau chaude. Bon, vapeur d'eau, c'est plus anecdotique. Donc, bon, là, du coup, on se focalise sur un poste. Alors, vous voyez, on est sur du 100%. Hein, donc, ça veut dire qu'on n'est plus sur le budget total du ménage, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais on est sur un poste en particulier, bon, qui est lié au fluide, hein, donc chauffage, électricité, eau. Et puis, on regarde la structure. Donc, bon, premier élément de constat. Effectivement, ce poste-là pris dans cette catégorie-là, eh bien, entre 1960, donc c'est sur le temps long, hein, ça fait plus, là, ça fait presque 45 ans. Bon, il a augmenté significativement. Évidemment, partout, on a des augmentations significatives. Alors, évidemment, on a ces variations-là. Qui sont liés au fait qu'on se déshabitue du chauffage au bois. Donc là, c'est totalement inverse. Mais enfin, globalement, on a des évolutions assez importantes. Et on reste quand même, quand on isole ce poste-là dans le budget des ménages, on reste quand même sur des montants qui sont relativement faibles, puisque si on enlève des choses assez anecdotiques comme l'eau chaude et puis le chauffage bois, bah, ça reste quand même un poste relativement faible. Évidemment, c'est l'électricité qui a connu une augmentation très significative dans le budget consacré à ça, c'est durant ces dernières décennies, et bon, sur lequel il y a un effort d'économie qui est réalisé. Mais bon, sinon, ça reste effectivement encore un poste relativement modeste. Voilà. Alors, on a dit c'est un poste modeste, on a montré quel était le coût, on a dit en Europe on est pas mal loti, on a un service qui fonctionne, les gens ne se plaignent pas et puis les critères objectifs nous amènent à penser que c'est plutôt bien fait tout ça. Et donc, est-ce que ça va nous coûter plus cher et alors on va le voir tout de suite après. Et est-ce que ça a beaucoup augmenté? Alors bon, il faudrait regarder depuis les années 80, il y a eu une époque où ça a augmenté pas mal parce qu'on a essayé de rattraper notre retard. Notamment vis-à-vis de l'application des textes réglementaires. Et puis, bon, il fallait refaire un peu les équipements. Sur les années, disons, récentes, c'est la seule comparaison que j'ai pu trouver avec un graphique déjà réalisé. Bon, on a des évolutions. Alors, vous voyez, c'est à recouper avec le prix de l'eau moyen en Europe. Je fais un petit retour en arrière. Pardon, je suis allé trop loin. Espagne, Italie, j'avais attiré votre attention en disant ils sont pas chers. Bon, effectivement, ils sont en train de rattraper leur retard, probablement, hein, puisqu'ils sont au-dessus de nous et surtout l'Espagne. Donc, ils réinvestissent là. Ils réinvestissent et puis ils ont des problèmes de captage, etc. Il faut qu'ils aillent chercher de plus en plus loin. Donc, ils ont donc une évolution du prix moyen de l'eau durant donc, les dernières années, on peut dire ça, sur 5 ans. Qui est assez saisissante au niveau européen. Bon, si on regarde pour nous, on a une augmentation annuelle augmentation annuelle moyenne du prix sur ces 5 années-là autour de 3,6%. Là encore, on est sur une moyenne européenne. On est même en dessous. La moyenne, c'est 5,1. Et puis, donc, pour pouvoir comparer intelligemment, il faut faire référence au taux d'inflation moyen en France. Donc, je vous rappelle, on est... Bon, sur cette période-là, il y a eu une année d'exception qui était 2009 parce qu'on s'est pris effectivement la crise avec beaucoup d'effets macroéconomiques induits. Mais on est sur un taux d'inflation aux alentours de 2%. Donc ça veut dire que notre prix, je dirais, structurel de l'eau augmente d'1,6% par an, hein, déflaté de l'inflation, une augmentation nette qui donc est tout à fait faible, en tout cas qui ne doit pas donner lieu à des inquiétudes particulières. Voilà, donc on répond à l'ensemble de ces questions progressivement. Ces éléments de constat nous amènent à relativiser un certain nombre d'informations qu'on a parfois en disant le prix de l'eau a explosé. Effectivement, il a beaucoup évolué, encore une fois, avant les années 2000. Mais bon, c'était pour rattraper des retards qu'on avait en termes d'investissement. Alors, bon, venons-en maintenant à les questions que tout le monde se pose, les grandes questions. Donc, pourquoi existe-t-il des prestataires privés ? Puisqu'on considère donc très souvent que l'eau est privatisée. Hein, le documentaire qui sera projeté tout à l'heure emploie ce terme. Il dit à tel endroit, il y a privatisation de l'eau. Alors c'est le service qui est privatisé. L'eau n'est pas privatisée. Et en tout cas, en Europe, les textes de loi veillent bien à ce que l'eau qui circule soit disponible pour tout le monde. Donc on ne peut pas, si vous... arrêtez l'eau au milieu d'un fleuve et puis que vous détournez et que vous vous en servez pour votre propre consommation et au détriment des autres usagers, vous êtes puni par la loi. Donc il faut faire attention aux termes qu'on utilise. L'eau n'est pas privatisée, c'est le service qui est privatisé, et encore il faut voir les conditions. Quand on fait de la délégation du service public, ça dépend des contrats qu'on a, mais la plupart du temps en France, hein, dans 80% des cas, c'est de l'affermage. Donc c'est comme le fermier dans l'agriculture, il a sa ferme, le fermier, puis il demande à un paysan, il demande à un agriculteur d'exploiter sa ferme. Mais il reste propriétaire. Et donc en France, donc, ce qui est généralement choisi, c'est cette forme-là. La collectivité est propriétaire des équipements et elle demande à un exploitant privé de fournir le service. Donc cette précision est importante à faire parce qu'on utilise des termes inappropriés quand on dit qu'on privatise l'eau. Donc on va revenir là-dessus. Pourquoi existe-t-il un écart ? Alors cet écart entre prestataire public et prestataire privé, l'écart donc en termes de prix de l'eau, c'est entre 15 et 20% en moyenne en France. Donc il y a un coût, hein, plus élevé quand on a affaire à M. Suez ou à M. Veolia, qui sont les deux grands, mais il y en a d'autres. Et quand on agrège tout ça et qu'on calcule en moyenne, il y a cet écart-là de 15 à 20% aujourd'hui. Donc il faudra qu'on se pose des questions par rapport à cet écart. Est-ce qu'on peut l'expliquer objectivement ? Et si on ne l'explique pas objectivement, enfin avec des éléments tangibles, qu'est-ce qui viendrait expliquer ça ? Et puis, l'autre question, c'est effectivement, il y a, je crois, durant la décennie passée, à peu près 300 communes, et parfois des grosses, qui sont revenues à la régie, hein, qui étaient en contrat avec un prestataire privé, puis qui ont choisi de reprendre ce service sous une forme strictement publique, avec des choses qui défraient la chronique. Hein. Vous allez sur le site de la ville de Toulouse, et puis vous regardez les déclarations du maire de Toulouse. Il y a un jeu très intéressant à avoir avec les prestataires privés, puisque pendant sa campagne électorale, il a dit « Objectif, retour à la régie 2015 ». Et puis, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il refait un contrat avec Veolia, et surtout, il négociait avec les agences de l'eau des gros investissements. Et en fait, on a quand même l'impression que c'était pour lui un moyen de renégocier son contrat avec une pression crédible au retour en régie, comme ça a pu se faire dans de très grandes villes de France. Donc, on va redétailler ces différents éléments. Alors, pourquoi existe-t-il des prestataires privés ? D'abord, il faut rappeler que en France, on est dans une situation particulière pour deux raisons. La première, c'est que quand on a urbanisé notre pays et qu'on a des très grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, qui ont amélioré leur environnement urbain, qui ont amélioré leurs services publics urbains, qui ont réorganisé leurs villes comme des villes modernes à la fin du 19e siècle, évidemment, la question du traitement de l'eau et de l'approvisionnement en eau potable était cruciale à ce moment-là. Et les villes qui ont pris ça en charge n'avaient pas les moyens techniquement de le faire, ont décidé de ne pas le faire. Et donc, elles se sont tournées vers des entreprises qui prétendaient pouvoir le faire à cette époque. Et donc, 1853, naissance de la Générale des Eaux, hein, donc, qui est devenue ensuite Vivendi puis Veolia. Et 1890, si mes souvenirs sont bons, à quelques années près, ou 1883, plutôt 1880, pardon, naissance de la Lyonnaise des Eaux, qui aura aussi plusieurs changements de nom successifs, et puis qui s'appelle aujourd'hui, enfin dont Suez est l'héritière aujourd'hui. Donc deux compagnies qui se créent au moment où la ville se crée. Hein. Et puis on voit apparaître à ce moment-là, il faut quand même remettre dans le contexte, hein. Alors, pour des économistes, c'est très important. On voit apparaître ce qu'on appelle une industrie de la ville, c'est-à-dire tout un ensemble d'activités privées qui font de leur fonds de commerce, en quelque sorte, hein, un service urbain. Hein. Donc l'industrie de la ville, c'est du stationnement public, enfin pardon, du stationnement automobile, par exemple, aujourd'hui, hein, qui coûte cher et qui doit être organisé d'une certaine manière, avec des règles de sécurité et puis des fonctionnalités particulières. C'est l'éclairage, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion de l'eau, c'est le chauffage urbain, ce sont les tramways, etc., etc. Ce sont les services publics de transport, etc. Et donc, on voit petit à petit émerger, hein, toute une industrie qui a pour métier de s'occuper des réseaux qui font vivre la ville. Des réseaux qui font vivre la ville. Et ces entreprises en font partie. Voilà. Donc, ces entreprises montent en gamme et très vite, très très vite, dès la fin du 19e, elles commencent à avoir une expertise telle et une visibilité telle qu'elles prennent des marchés à l'étranger. Donc, ce n'est pas hier matin, ce n'est pas les années 2000, ce n'est pas le capitalisme fou, financier fou que tout le monde dénonce, etc. Effectivement, elles ont eu leur rôle là-dedans, elles ont joué beaucoup, hein, notamment Veolia, avec... Des cas tout à fait frappants d'investissements massifs de type, comment dire, pas spéculatif, mais en tout cas de type boursier, ça c'est clair. Et donc ces entreprises sont identifiées très tôt comme ayant une expertise importante, notamment donc elles ont eu des marchés en Amérique latine, hein, au Mexique, très tôt, pour traiter l'eau, la distribuer, et puis... donc développer leur activité à l'international. Donc voilà, il y a une première question qui se pose, si vous voulez, c'est qu'elles interviennent au moment où les collectivités ne savent pas faire et où il y a des enjeux très importants de développement des espaces urbains. Premier constat. Ensuite, eh bien effectivement, elles construisent sur un savoir-faire acquis et il y a ce que les économistes appellent un phénomène d'exploitation d'une rente technologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rente technologique ? Ben, c'est comme la rente du propriétaire foncier, il a un bien, la terre. Alors, si vous avez ce bien en Champagne, dans la zone de classification, c'est parfait. Vous avez une excellente rente parce que vous tirez de cette terre, hein, un produit qui se valorise très cher, voilà, le champagne. Quand vous êtes propriétaire d'un champ pétrolifère, ben, voilà, pays de l'OPEP, vous avez une rente. Hein, c'est voilà aussi l'expression, elle peut se décliner comme ça, hein, la notion de rente, c'est-à-dire... vous tirez bénéfice d'une ressource que vous êtes le seul ou presque le seul à pouvoir exploiter et vous en tirez un bénéfice important parce que vous avez une forte valeur ajoutée derrière et donc vous n'avez qu'à attendre que ça se valorise tout seul. Et c'est ça être rentier, hein, c'est tirer usage de l'exploitation de cette ressource rare qui donne une grosse valeur ajoutée. Pétrole, champagne et puis évidemment la technologie aussi parce que quand vous êtes le seul à maîtriser une technologie, et que vous avez de l'avance sur tous vos concurrents, bah vous exploitez le différentiel en faisant payer cher ceux qui l'utilisent. Donc le champagne est cher parce qu'il y a de nombreux amateurs. Bon, voilà. Et donc, évidemment, vous exploitez cette différence de valeur ajoutée. Le pétrole est cher parce qu'on est nombreux à le demander. Donc, ils ont accumulé une connaissance en investissant évidemment beaucoup en recherche et développement. Hein, c'est 100 millions d'euros annuels pour les grandes compagnies de l'eau à l'heure actuelle. Mais donc, on investit beaucoup en R&D. Et puis, on arrive à maintenir cet écart vis-à-vis des concurrents. Et on arrive à constituer un réseau de collectivités. Et plus le temps passe, plus les interlocuteurs qu'on a en face de soi, alors surtout s'il s'agit de petits maires ruraux, voilà, on ne peut pas reprocher à un petit maire rural de ne pas connaître dans le détail tous les éléments techniques liés au traitement de l'eau. Bah, ces grosses entreprises, elles sont multinationales, elles ont un savoir-faire acquis depuis longtemps, elles savent rédiger des contrats, elles ont les moyens de se payer des experts, etc. Et elles arrivent effectivement en essayant de capter ce potentiel qui est pour elles à ce moment-là très facile à capter. Alors, elles ont très vite donc acquis ce potentiel-là. Au niveau international, un potentiel d'ingénierie et de la R&D, un réseau de clients plus ou moins captifs parce que les contrats étaient parfois de très très long terme. Il y a eu des contrats de 60 ans dans des cas tout à fait incroyables. Et donc, clientèle captive sur la durée du contrat quasiment, sauf à faire défaut. Et évidemment, la concurrence a eu beaucoup de mal à s'immiscer dans ce système. Ces entreprises ont bénéficié de financements parce qu'elles ont été capables de mobiliser un financement bancaire assez abondant, parce qu'elles ont partie liée à un certain moment de leur histoire avec des grandes banques françaises. Bon, Suez, c'est typique. Hein, voilà. Suez a encore dans son actionnariat la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'État a jugé important de maintenir l'efficacité d'une grande entreprise de services de ce genre. Et donc, c'est le moyen pour elles d'obtenir une stabilité dans leur marché. Et on voit apparaître donc ce que les économistes appellent un oligopole, c'est-à-dire un très faible nombre d'offreurs, alors qu'il y a un très grand nombre de demandeurs, puisque même si les communes se regroupent en intercommunalité, on a énormément de services d'eau et d'assainissement en France. Donc, voilà pourquoi il existe des prestataires privés. Hein. D'abord, au début, parce que les collectivités ne savent pas faire. Il y en a encore de nombreuses qui ne savent pas faire. Et puis, les prestataires privés, ils ont acquis et ils exploitent une rente qui leur permet d'être présents sur tous les coûts où c'est un peu compliqué. Donc, on peut donc ensuite se demander si ces gens-là font bien leur travail. Et donc, quand on se pose la question, est-ce qu'ils font bien leur travail, tout de suite, on regarde le prix en disant, est-ce qu'ils nous proposent le juste prix? Alors, qu'est-ce que c'est le juste prix? Regardons, comparons service public de l'eau et service privé. Donc, le cas typique, hein, je ne le réexplique pas, mais le cas typique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'affermage, c'est-à-dire, il y a un exploitant, la collectivité est propriétaire de son réseau et de ses équipements, et puis il y a quelqu'un qui vient exploiter ce réseau, qui éventuellement fait des travaux d'amélioration. Il y a donc, je vous le disais, un écart entre 15 et 20% plus cher pour les prestataires privés. Mais ça ne veut rien dire sur la qualité du service, a priori, parce que les prestataires privés, d'abord, ont une fiscalité qui n'est pas celle du prestataire public. Ils payent une taxe, ils sont professionnels, ils payent des impôts sur les sociétés que le prestataire public ne paye pas. Pardon ?
Et puis, ils payent les actionnaires.
Alors, ils payent, alors on va y revenir. Ils payent les actionnaires. Oui ? Que ne paye pas le absolument. Il y a aussi un élément qui peut expliquer l'écart. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il y a un élément qui peut expliquer l'écart, c'est que, comme je vous disais, quand c'est très compliqué, la collectivité peut être réticente à y aller, voire n'y va pas du tout parce qu'elle sent qu'elle ne pourra pas faire, qu'elle ne saura pas faire ou qu'elle fera trop cher. Et donc, à ce moment-là, quand c'est compliqué, on a plus tendance. Et les statistiques très fines sur les raisons qui font passer en régime privé ou plutôt qu'au régime public le montre bien, quand c'est compliqué, on a plus tendance à faire appel à un prestataire privé. Donc si c'est compliqué, ça coûte plus cher. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui expliquent l'écart. Et puis Jean-Paul, tu vas me contredire, mais je pense que non, parce que là, ça va toucher vraiment un élément sensible de ta carrière. Les salariés de chez Veolia et de Suez sont mieux payés que les salariés du service public de l'eau.
Alors, je pense que toute la gamme de salariés, c'est pas le cas. Les non. salariés en bas d'échelle sont relativement au même niveau, mais ouais. En haut de l'échelle, les salariés de l'entreprise privée, ils sont effectivement plus cher payés, ouais. Mais on leur en demande trois fois plus par rapport à un cadre d'une régie, quoi.
Et alors, autre élément qu'il faut prendre en compte, qui me semble très important, c'est qu'il faut qu'ils payent leurs charges de R&D, de recherche et développement.
Ça, je pense que ça, c'est l'élément fondamental, parce que nous, on a beau être réunis en corporation, enfin, on a des associations, on n'arrive pas à développer la puissance de R&D qu'ils ont en face. Alors, tu parlais tout à l'heure de la rente technologique. Alors là, ils l'appliquent à 100% dans l'évolution. Et en plus, ils appliquent une méthode dont on a parlé hier. Enfin, c'est hier. C'est hier Non, j'étais pas là hier. Mais c'était il y a deux jours, à propos de France Liberté, où ils font un forcing effréné auprès des instances européennes pour faire évoluer les normes. Ouais. Et c'est tout bénef pour eux. Quoi. Ce qui fait qu'aucune régie de ce nom n'est capable de concevoir un équipement. Ouais. On est obligé de se servir chez eux dans la conception. Bon, ça fait partie des règles.
Oui. Alors, bon, ils ne sont pas les seuls à faire du lobbying auprès des instances de l'Union européenne. Hein. Il y a des foules de lobbyistes qui sont connus, reconnus, etc., qui essayent d'influencer l'évolution des règles européennes. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les seuls qu'il ne faut pas l'indiquer. Effectivement, ils travaillent beaucoup pour que les normes se rigidifient et surtout pour qu'on puisse mettre en valeur les techniques nouvelles qu'ils ont mis au point. Bon, donc ça explique une partie sans doute de l'écart. Moi, je suis incapable de dire sur les 15 ou 20 % si l'ensemble de ces éléments épuise les 15 ou 20 % ou pas. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, à une certaine période, on était sûr que cet écart, il servait aussi très largement effectivement, à rémunérer. De toute façon, il faut rémunérer le capital. Donc, ces entreprises font appel au capital et font appel donc à des actionnaires. Donc, vous allez sur les sites de ces entreprises et vous trouvez la répartition des actionnaires. On sait qui sont les actionnaires de ces entreprises. Et par exemple, pour Veolia, pour Suez, il y a plus de public. C'est une entreprise qui est plus dans le giron des grandes banques publiques, des financeurs publics. C'est un actionnariat plutôt stable. Enfin, voilà. Pour Veolia, environnement, c'est très clair. Hein. C'est un actionnariat de fonds de pension. Il y a un fonds qatari qui intervient. Il y a des financeurs privés qui sont effectivement très exigeants sur la rentabilité. Et ce qu'on a montré, ce qu'on peut montrer très facilement, mais ce qu'on a montré surtout à la fin des années 90, début des années 2000, c'est des entreprises qui sont beaucoup endettées parce qu'elles sont allées à l'étranger faire des choses un peu vaseuses. Elles se sont prises des claques et elles ont dû revenir. Ça leur a coûté très cher. Les aventures de Monsieur Messier aux États-Unis, ça a coûté très cher à Vivendi. Et évidemment, on dit normalement l'eau finance l'eau. Il y a une chose qui est certaine. Hein. Quand vous regardez comment Vivendi a valorisé la vente de Veolia Environnement, puisque, qui est devenue indépendante, sortie du groupe, elle l'a valorisé très cher. Hein, et c'était pour éponger la dette de Vivendi. Donc, on peut tergiverser, mais pour moi, c'est très clair. Hein, l'eau finance le déficit de Vivendi. Donc là, l'eau... Alors après, évidemment, on a des comptes séparés, l'entreprise continue à fonctionner, etc. Mais la vente de cette entreprise, hein, c'était bien pour renflouer Vivendi, qui avait fait des calculs et des stratégies, élaboré des stratégies totalement hasardeuses aux États-Unis dans le domaine du multimédia, de la création culturelle, etc. Bon, donc il est vrai qu'il y a cet aspect-là, et dans les années 90, début des années 2000, ce qui se disait, hein, c'est que les actionnaires avaient tous le même niveau d'exigence en ce qui concerne le retour sur investissement, hein, ce qu'on appelle le ROE, hein, Return on Equity, c'est-à-dire le retour sur leur investissement en capital, c'était 15% la loi. Ça a été 15%. Donc on disait, si ça ne crache pas 15%, je change de crémerie, hein, pour parler trivialement, hein, mais au moins ça frappe les esprits. Donc ça voulait dire, messieurs les PDG, faites en sorte que le ROE cette année soit autour de 15%. Sinon, bah, on vend nos actions chez vous et on va en chercher ailleurs. Donc ça a donné une pression considérable. Effectivement, donc sur les marges, bah, vous rémunérez les investissements, vous rémunérez la R&D, et puis, éventuellement, vous augmentez un peu les salaires. Et puis, bah, après, vous rémunérez le capital. Hein. Donc, l'écart il s'explique sans doute aussi par là. Et moi, j'ai fait une étude sur l'impact de ces règles financières sur la gestion des grandes entreprises de l'eau. Et on voit bien que tous, par exemple, les ingénieurs de R&D chez Suez et Veolia, donc j'en ai enquêté environ 25, et je leur ai dit, bon, comment a évolué votre métier de directeur de R&D, la archi stratégique, hein, depuis 15 ans que vos entreprises sont allées chercher du financement sur les marchés financiers. Et tous disent que depuis cette période-là, ils sentent que les éléments financiers sont de plus en plus importants à prendre en compte, que dans les recrutements qu'ils font, c'est pas le super ingénieur sortant de Polytechnique, enfin je sais pas quelles sont les très grandes écoles de l'eau, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche, c'est ça plus un vrai potentiel de management, plus cette capacité à prendre en compte des variables de gestion dans les choix, dans les arbitrages. Les messages qui circulent dans les labos de R&D, mais c'est vrai aussi en pharmacie, c'est vrai ailleurs, hein, mais c'est de dire quelle est ta visibilité à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et il faut que tu nous dises à 3 ans ce qui peut sortir, et c'est ça qui sera priorité numéro 1. Et donc on fait beaucoup plus ce que les économistes de l'innovation appellent du problem solving, c'est-à-dire on est face à un problème, qu'est-ce que Veolia Suez arrive à résoudre dans ce problème, et on est beaucoup moins dans l'innovation exploratoire, les coûts un peu hésitants au départ, mais qui peuvent donner lieu à l'innovation fondamentale, on n'est pas là-dessus, beaucoup moins là-dessus. Hein. Et tous les chercheurs se plaignent un peu dans ces boîtes-là en disant, mais finalement, ce qu'on aimait bien faire, les trucs où on allait gratter un peu et puis qui pouvaient être assez stimulants sur 8-10 ans, ça, on n'a plus les financements pour. On est sur 3 ans et il faut que ça donne au bout de 3 ans. Alors c'est vrai que c'est une tendance générale dans la recherche, hein, et même dans le public, je dirais, parce que nos financeurs nous le demandent de plus en plus, mais ils témoignent quand même du fait que les variables financières sont de plus en plus importantes dans leur stratégie. Donc ça veut dire que...
Je voulais te demander quelque chose, puisque tu as parlé du médicament, moi je fais le parallèle. Est-ce que ce sont des sociétés qui continuent à avoir de la recherche en interne, ou bien qui externalisent, puisque c'est le cas de la pharmacie, avec des licenciements massifs et ils externalisent la recherche. Est-ce que c'est la même pratique ?
Alors, ils externalisent beaucoup moins que dans la pharmacie. Ils ont la même stratégie que dans la pharmacie quant aux poissons pilotes. Les petites boîtes qui ont découvert des traitements un peu futés, nous on a le cas ici, on a notre collègue Sylvie ou Sophie, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, Pont-le-Voix, qui travaillait à l'ENZIP avec l'équipe de Legub et d'autres, qui a déposé un brevet, qui a inventé une technique nouvelle dans le cadre de sa thèse, et qui a été démarché par les grandes de l'eau, qui ont dit, bon, écoute, on rachète ton truc, et puis on va porter ça, et on va t'aider, parce que ça nous intéresse. Ils font comme ça avec tout le monde, parce qu'effectivement, ils n'ont pas à enclencher les coûts les plus importants de la recherche. Donc c'est vrai, c'est une forme d'externalisation, parce qu'ils vont capter des ressources qui sont déjà existantes. Ils vont cueillir, c'est de la cueillette. Alors, ce qui est par contre plus répandu, et je ne sais pas si c'est le cas du côté du médicament, mais c'est plutôt des sortes de consortiums de recherche, en fait, où chacun apporte un peu sa science, je dirais, et chacun repart avec ce qui l'intéresse dans le système. Quoi. Et dans ce cas-là, ces consortiums de recherche, ils associent public-privé, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de division cognitive du travail entre le privé qui approfondit certains éléments rentables à court terme, qui entre dans le consortium pour pouvoir échanger et tirer parti des évolutions globales du consortium, et qui s'appuie beaucoup sur la recherche publique, pour des réflexions et des recherches de plus long terme. Typiquement, les bourses chiffrent sur 4-5 ans, avec éventuellement un brevet, une innovation au bout de 6-8 ans. Ça, c'est des choses qui sont liées plus à la veille et à la recherche de coûts d'opportunité, quoi, de la gestion du coût d'opportunité. Et effectivement, on voit bien qu'on essaye de minimiser à tout prix les dépenses de R&D vers une optimisation de la recherche de l'info, quoi. Ça, c'est assez clair. Donc, c'est quand même un peu inquiétant. C'est quand même un peu inquiétant parce que moi, dans les interviews que j'ai fait des chercheurs dans le domaine privé, ils sont pas à l'aise, quoi. Ils font pas ce qu'ils auraient envie de faire. Alors, les financiers disent oui, mais on rationalise parce qu'on perdait du temps et puis ils se faisaient plaisir, mais c'était pas efficace. Et puis d'un autre côté, quand on écoute bien ces gens-là, ils nous disent quand même, notre boulot, ce n'est pas que du problem solving, ce n'est pas le fait que tu réponds à tel problème technique, c'est aussi de s'aventurer dans des champs nouveaux qui peuvent être porteurs de développement pour l'entreprise dans les années à venir. Et le sentiment général que j'ai eu en les écoutant, c'est qu'ils étaient un peu désabusés par rapport à ça, en disant vraiment, on rate quelque chose et on risque de perdre notre leadership international si on continue comme ça, quoi. Donc, il y a ces sources d'inquiétude. Alors, du coup, ça veut dire qu'on ne prend pas le soin d'investir peut-être autant qu'on le devrait. Et vis-à-vis de ce différentiel de coût, ce n'est pas anodin, quoi, hein, parce que peut-être on serre les prix et on passera peut-être pas la barre au niveau du progrès attendu. Alors, pourquoi observe-t-on des tendances en régie ? Et puis après, on pourra discuter puisqu'on arrive presque au terme de ce temps consacré à cette intervention. les retours en régie, ben parce que effectivement, les maires ou les présidents d'intercommunalités ont le sentiment de ne pas bien comprendre ce qui se passe dans leur contrat d'eau. Hein. Ils ont le sentiment de se faire flouer sur certaines opérations, comme les travaux, hein, qui sont payés mais pas réalisés. Ça, ça a été montré. Hein.
C'est la plus grosse source de profit, de toute façon.
Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, on ne vérifie pas ça. Ils revendiquent aussi des éléments sur les gains de productivité, en disant, mais quand on réalise des gains de productivité, pourquoi est-ce qu'ils seraient captés, puisque vous travaillez avec notre équipement? Donc, vous faites mieux. Mais est-ce que vous faites mieux parce qu'on a mis notre équipement aux normes et qu'on a fait fonctionner, je dirais, la ferme, hein, si on prend l'analogie, ou est-ce que ça tient uniquement à votre capacité à travailler plus vite? Et donc, les maires revendiquent effectivement aussi un droit de regard là-dessus. Et puis, ils ont l'impression que se lier comme ça sur plusieurs dizaines... Enfin, là, la moyenne des contrats, c'est 12 ans. On peut aller jusqu'à 20 ans. Ils ont l'impression qu'ils s'engagent sur longtemps en étant quand même un peu liés aux prestataires. Et donc, certains ne sont pas du tout satisfaits du service. Et puis, certains font des calculs en disant on peut passer moins cher. Et sous la pression des usagers... Il passe moins cher. Je voulais juste terminer en disant qu'on a quand même une réflexion qui a beaucoup évolué ces dernières années, parce que jusqu'à présent, dans cette relation public-privé, on disait qu'il faut essayer de faire en sorte que l'asymétrie d'information entre l'élu qui décide... Et là, en France, on a un système juridique, hein, c'est l'intuitu personae, c'est-à-dire que le maire décide... Bah avec son conseil municipal, mais le maire décide en âme et conscience. Voilà, il s'implique. Et donc, la réflexion juridique évolue ces derniers temps sur deux points qui me semblent très intéressants. C'est dire, est-ce qu'on peut alléger cet intuitus personae? C'est-à-dire que le maire ne soit pas le seul impliqué en âme et conscience dans sa décision, et donc qu'on ait un système juridique de régulation qui lui amène des éléments, des critères d'évaluation, qui lui amène des assistances, public, hein, et pour tous les mêmes soutiens, hein, qui soient plus seuls finalement à décider, hein, mais évidemment c'est toujours l'élu qui va décider, mais qu'il y ait des éléments plus importants venant de l'extérieur qui adoucissent un peu cette exposition un peu trop personnelle dans le choix. Ça, et donc il y a des spécialistes juristes qui disent que la notion d'intuitus personae sera remise en cause à moyen terme. Et puis l'autre élément, c'est qu'on raisonnait toujours donc, dans cette asymétrie entre un élu, bon, aussi important qu'il soit, maire de Paris, voilà, bon, et puis un prestataire, aussi important qu'il soit, Veolia, grande multinationale, etc., implantée dans je ne sais combien de pays. On raisonnait comme ça. Et là, on a franchi un palier qui me semble très intéressant en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de favoriser l'émergence de prestataires publics qui viendraient jouer en concurrence avec les grandes et qui auraient une vocation à intervenir sur le territoire national, voire européen, c'est-à-dire voir l'émergence finalement d'une grande entreprise publique de l'eau qui viendrait jouer dans le jeu et qui pourrait effectivement accroître la concurrence et donc la pression sur les prix. Donc il y a des discussions comme ça. On est sorti du cadre purement local, hein, dans la réflexion pour ouvrir sur des perspectives comme celle-là. Donc, affaire à suivre.
Pascal, oui. Apparemment, il y a des spectateurs qui attendent pour le
d'accord.
film.
Oui.
Donc, tu peux conclure en deux minutes, si tu veux.
Ben, écoutez, je vous laisse plutôt la parole si vous voulez ajouter des choses, faire des commentaires, demander des précisions, parce que j'ai beaucoup parlé et puis les échanges étaient intéressants. Donc.
Deux petites informations. Pour le cas de Poitiers, enfin, pour les personnes qui sont dans la salle, c'est simplement pour leur dire que nous, on est en... Enfin, j'en fais plus partie maintenant, je suis à la retraite. Comment dirais-je ? La régie de Poitiers existe depuis 1898 ou 1901 ou 2. En fait, l'industriel qui a motorisé le château d'eau de Belgeoine pour remonter de l'eau de Lac Duc dans le château d'eau avait installé une usine, une machine à électrique. À vapeur dans un premier temps, et ensuite une machine électrique. Et en fait, ce monsieur est décédé pendant l'installation des équipements. Et le maire a dit, on n'est pas plus con que lui, quand il a vu que ça marchait, il a municipalisé le service des eaux, et depuis, on a tout le temps été en régie. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, Bordeaux est en train de se propulser dans une régie. Il devrait avoir abandonné la Lyonnaise en 2017, un truc comme ça. Ils ont 5 ans pour se mettre d'accord, hein, pour former le personnel, pour faire... Alors, en ce moment, ils passent un appel d'offres pour faire une DSP de transition. Paris, bah, ça s'est fait depuis le 1er janvier 2012, si je ne m'abuse.
Oui.
Enfin, c'est quand même une...
Ça se discute... Oh.
Hein. Alors, ce qui est étonnant aussi...
Non, ça fait un an, je pense, c'est passé en 2011.
En 2011,
ils ont fait le bilan, là, d'une année de...
Paris,
c'est
100%. Maintenant, oui. Régime, oui. Alors, non, c'est plus moitié-moitié. Hein. Mais ça, c'est parce que, bon...
Et puis Toulouse, on en parle, donc...
Toulouse, il s'est fait privatiser en 1990, un truc comme ça. En 1990. Oui, non, mais... Et il a touché 900 millions de francs de l'époque. Mais la ville qui a touché le plus pour son service, je crois que c'est Clermont. Ils ont touché 1 milliard 250 millions dans les années 90 pour l'heure de la vente. Bah oui, bah ça c'est classique. Mais bon, voilà.
Il y a à Dijon, j'ai entendu, je ne me rappelle plus trop, mais ça illustre bien quand même les bénéfices sont privés et puis les pertes sont publiques. À Dijon, ils viennent de signer un contrat l'année dernière avec le privé, où le privé a réussi à leur faire avaler que si jamais ils ne rentraient pas dans leurs dépenses par rapport à un cahier des charges un peu sur la remise en état du réseau, il faudrait que le public compense, mais que s'ils rentrent dans les frais, ils ne vont pas redistribuer les bénéfices. Hein. Là, je trouve ça très, très fort pour le
non,
privé.
Mais alors, c'est toujours une question de capacité de la puissance publique à se positionner quoi, par rapport à tout ça. Et là, effectivement, on va le voir dans le film qui vient. Moi, si vous voulez, j'anticipe un tout petit peu sur ce qui va venir, mais... les entreprises font leur boulot, alors on peut les critiquer, etc. Enfin, moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Elles essayent d'exploiter toutes les possibilités pour que, évidemment, elles dégagent des marges les plus grandes possibles. Ensuite, il faut vraiment que les élus et le service public soient à la hauteur de cet enjeu-là, quoi. Et plus on leur laisse la place, évidemment, plus elles la prendront.
Le travail de contrôle de gestion, c'est vraiment
un bon. Merci de votre présence.
Vous pouvez souffler 5 minutes.